Bonjour à tous, bonne année, et comme le dit un ami pasteur, et surtout la sainteté. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais le nouveau programme de l'Église est sorti, et sur ce programme, il y a une ligne directrice pour cette année. C'est 2020 résolument saint. Facile, ça rime, 2020, résolument saint. Avec les anciens, on voudrait vous inviter à vivre une année de sainteté ensemble. Et il y a 6 résolutions sur ce bulletin. La première, c'est vivre une vie de louange en célébrant la bonté et la justice de Dieu. Comme on vient de le faire ce matin, on veut le faire toute l'année. Vivre une vie juste en faisant des choix sages, éclairés par la parole de Dieu. Vivre une vie intègre, en ayant un comportement droit. Vivre une vie loin de mal, loin du mal, en fuyant les tentations. Vivre une vie en étant bien entouré, en choisissant avec ceux avec qui on marche. Vivre une vie engagée pour la justice sociale, en dénonçant le mal, en priant pour nos autorités. Amen. Amen. La vérité, c'est que c'est facile à dire, mais un peu moins à vivre. Et on veut commencer cette année avec une série de 3 prédications intercalées entre la saison 1 et la saison 2 de notre série sur Luc. 3 prédications où on veut parler de l'espérance. 3 prédications dans le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, où Paul répond à une question, mais comment on peut vivre l'espérance alors qu'il y a encore le péché en nous? Comment on peut vivre l'espérance alors qu'il y a encore la souffrance autour de nous? Comment on peut vivre l'espérance alors qu'il y a des attaques sur nous? Ça, c'est 3 prédications qu'on veut faire ensemble en ce début d'année. Et même l'apôtre Paul dit, mais c'est pas si facile. Au chapitre 7 de sa lettre, il dit, « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Un peu plus loin, il dit, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Alors, est-ce que c'est bien utile de formuler ces résolutions? Est-ce que c'est bien utile de dire 2020 résolument saint? Est-ce que c'est même réaliste de se donner des résolutions comme celles que je viens de le lire? Est-ce que c'est pas un peu se bercer d'illusions que de croire qu'on peut vivre ce qu'on a écrit? En fait, je crois pas. Et je crois que Paul non plus. Et je vous invite à lire ce qu'il dit juste après, au début du chapitre 8. Prenons Romains chapitre 8, je lis les versets 1 à 17. Si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 737. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre, ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, Vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Paul, en quelques lignes, il nous empêche de tomber dans deux ornières. La première, ce serait un trop grand triomphalisme de penser que le péché n'a plus aucune influence sur nous. La deuxième ornière, ce serait un trop grand défaitisme, pensant que le péché aura forcément le dessus sur nous. Et entre triomphalisme et défaitisme, Paul présente une troisième voie, celui du réalisme de la grâce. Le réalisme de la grâce, c'est quoi? C'est d'abord une tension. La tension de savoir que la victoire est assurée, mais que nous devons encore vivre des batailles. Nous ne pouvons pas vivre parfaitement ce que Dieu nous demande, mais nous pouvons le vivre vraiment. Et en plus d'être une tension, ce réalisme de la grâce, il est optimiste. Et ce n'est pas un optimisme niais ou un optimisme aveugle qui refuse de voir la réalité en face, mais c'est un optimisme qui est motivé, nourri par la grâce, éclairé par la grâce de Dieu. On peut avoir confiance dans ce que nous demande Dieu parce que ce qu'il nous demande, il nous le donne. Le réalisme de la grâce. Et c'est vrai que c'est une tension, comme beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Et on va voir notamment que ces trois textes dans Romains 8 nous parlent de tension. Tension entre la chair et l'esprit. Tension entre le présent et l'avenir. Tension entre le visible et l'invisible. Et parfois dans notre vie chrétienne, on est tellement conscient de cette tension qu'on est un peu comme un élastique. Et on se demande à quel moment ça va péter. Mais je suggère que Paul, ce matin, dans ce texte, il nous donne trois clés pour mieux vivre cette tension. La première des clés, c'est que nous sommes libres. Les versets 1 à 4. Le verset 1, c'est parmi les versets les plus importants de la Bible. Si vous voulez apprendre un verset par cœur, et si vous connaissez déjà Jean 3,16, vous ne savez pas lequel apprendre juste après, apprenez celui-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le grand prédicateur britannique Martin Lloyd-Jones a déclaré « La plupart de nos problèmes viennent de notre incapacité à réaliser la vérité de ce verset. » Et à l'inverse, quand on réalise la réalité de ce verset, notre vie chrétienne change. Il y a tout qui change. Notre vision du monde change, notre vision de Dieu, notre vision sur nous-mêmes change. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont unis à lui, il n'y a aucune condamnation. Le seul qui pouvait nous condamner, c'est Dieu. Et d'ailleurs, Paul avait commencé son épître comme ça pendant 3 chapitres. Il dit, tout le monde est coupable. Les juifs, vous êtes coupables. Les non-juifs, vous êtes coupables. Tout le monde, vous êtes coupables. Mauvaise nouvelle. mais ensuite la bonne nouvelle. Mais ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Le seul qui peut nous condamner est le seul qui peut nous justifier. C'est le seul qui peut lever cette condamnation. Et ce qui nous condamnait ici, dit Paul, le péché a été payé par Jésus. La condamnation n'existe plus parce que le prix a été payé. La justice de Dieu est satisfaite. Et Paul le reconnaît, mais nous, on ne pouvait pas remplir les exigences de la loi à cause de notre nature pécheresse, à cause de notre faiblesse. Mais ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait. Dieu a envoyé son Fils pour faire ce que nous ne pouvions pas faire. Dieu a pourvu. Et c'est là le cœur de l'Évangile, c'est là le cœur de notre union à Jésus-Christ. Christ a pris sur lui ce qui était à nous et il nous a donné ce qui était à lui. Il a pris notre malédiction, il nous a donné sa bénédiction. Et on ne vit plus sous le regard d'un juge qui nous surveille et qui regarde à chaque tournant si on va bien se comporter, si on fait ce qu'il faut. On n'est pas en liberté conditionnelle où au moindre écart, le jugement retombe sur nous. Nous vivons en homme et en femme. Enfin, pas moi, certains. En homme et en femme libres. Nous sommes libres de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation, ni pour hier, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour toujours. Pourquoi ? Parce que tout a été payé en Jésus. Tous mes péchés d'hier, les péchés que je commettrai aujourd'hui, les péchés de demain, ceux dont je ne suis pas conscient, tout a été payé par Jésus-Christ. Plus aucune condamnation. Et ça, ça nous libère aussi d'un sentiment de culpabilité qui peut être mal placé. C'est normal de se sentir mal parfois quand nous péchons. Et c'est même là la marque de l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit en nous qui travaille quand nous péchons pour nous faire ressentir cette honte. Mais cette honte n'est pas la culpabilité liée à notre condamnation. Cette culpabilité-là doit s'envoler parce que la condamnation a disparu. On peut vivre avec une conscience tranquille. Ne nous chargeons pas de péchés que Christ a déjà payés. Ne vivons plus sous ce joug de la condamnation qui n'existe plus pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne nous accusons pas nous-mêmes alors qu'il n'existe plus de condamnation. On le verra dans le dernier texte. Personne ne peut nous accuser. Et s'il y en a qui nous accusent, nous avons un avocat auprès du Père. Quelqu'un qui dit « Non, moi j'ai payé. » Christ qui dit « Non, ce péché-là je l'ai payé, celui-là aussi. Il n'y a plus rien qui est là pour accuser celui qui est uni à moi. » Ça nous libère aussi d'un besoin de se prouver. On n'a pas à prouver à Dieu qu'on mérite son amour. On n'a pas à faire des efforts pour que Dieu nous aime. Parce que c'est ça le message de l'Évangile. Dieu ne nous aime pas en vertu de ce que nous faisons ou de ce que nous pouvons faire, mais en vertu de ce que Christ a déjà fait. Maintenant, aujourd'hui, demain, pour toujours, son amour est là. Et son amour ne partira jamais. Et rien ne peut nous en séparer. Et parfois, on peut voir, parfois je peux voir ma relation à Dieu un peu comme l'examen du code de la route. Qui c'est qui est en train de passer son code ici? Les deux là? Ça va, vous le vivez bien? Ouais, bonne chance. Vous vous rappelez cette sensation? Alors peut-être ils ne s'en souviennent pas, ça fait longtemps, mais... Maintenant c'est 5 fautes, toujours 5 fautes. On se prépare pendant des mois, à un moment donné on est un peu hésitant, mais on se dit « Ah, ça peut passer ». Et puis on est là le jour de l'examen et on espère franchement ne pas faire 5 fautes. On ne veut pas être recalé. On ne veut pas faire la faute de trop. Et parfois, on pense qu'avec Dieu, après 5 fautes, Dieu nous met de côté. Et on voit un peu chaque péché comme quelque chose qui nous rapproche de la disqualification. Mais il n'y a aucune disqualification pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut vivre avec l'assurance qu'après chaque faute, on peut revenir devant Dieu. On peut revenir devant Dieu parce que c'est lui-même qui s'est engagé en son nom à nous pardonner. Parce qu'il est fidèle et juste, il pardonne celui qui s'approche de lui à chaque fois. 5 fois, jusqu'à la fin. Aucune disqualification pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième clé, nous sommes vivants, les versets 5 à 13. Paul nous dit par notre union à Jésus-Christ, quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes unis à lui. Et par cette union, nous sommes libérés de la condamnation. Mais on est aussi libérés de la domination du péché. Le péché ne règne plus sur nous. Et Paul l'a exprimé un peu plus longuement au chapitre 6 de la même lettre. Il dit, le péché ne règne plus sur vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Vous êtes mort au péché, vivant pour Dieu en Christ. Mais du coup, si les chrétiens pêchent encore, je suis sûr que ça arrive à l'un ou l'autre d'entre vous, c'est quoi la différence avec ceux qui ne sont pas unis à Jésus-Christ ? Si on continue de pécher, quelle est la différence avec les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ ? La différence, nous dit Paul dans ce texte, c'est leur affection. C'est ce qu'ils aiment. Paul fait la différence entre celui qui pêche et celui qui s'affectionne au péché. Les saints sont encore pécheurs. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ pêchent encore, mais ils n'aiment plus leur péché. La direction de leur cœur a changé fondamentalement. Quand j'étais petit, comme tous les voisins de mon âge, j'ai appris à faire du vélo sur la place devant chez mes parents. C'est un petit vélo rouge. C'est une place qui est assez grande pour qu'on voit qu'on puisse faire quelques tours de pédale pour arriver jusqu'au bout, mais une place assez petite pour que quand on apprend à faire du vélo, on arrive jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'un enfant avait le courage de faire ce pas, de décider d'enlever les petites roulettes et d'essayer, il y avait tout le quartier, c'est quelques maisons, hein. Les voisins, les copains, les parents qui venaient pour encourager celui qui allait faire le pas. Bon, c'était vraiment une étape importante, j'allais dire, pour la vie du quartier. Ça, c'est quand on est petit, on croit que ça y est, c'est l'événement. Mais c'était quand même une étape importante, parce qu'on voyait qu'il y a quelque chose qui... C'est vrai, il y a le permis, mais avant, il y a apprendre à faire du vélo. Et on a une impression mitigée parce qu'en même temps, il y a du monde qui nous encourage et tout, mais on se dit que si on tombe, il y a plein de monde. Et je me souviens de ce moment, alors vaguement bien sûr, mais je me souviens d'un secret que m'a dit mon père. C'est un principe qui m'a permis d'atteindre l'autre côté de la place. Et c'est un principe qui me sert aujourd'hui encore dans ma vie chrétienne. Il m'a dit... Là où tu regardes, tu te diriges. Là où tu regardes, tu te diriges. Ça a changé ma conduite à vélo. Parce qu'avant, je faisais quoi ? Je regardais le sol. Mais il fallait que je regarde loin, là où je voulais aller. Nous allons où nous regardons. C'est ce que dit Paul. Ce qui occupe notre cœur va conduire notre vie. Ce qui occupe notre cœur va conduire notre vie. C'est quelque chose qui revient souvent chez lui. En Colossiens, une autre lettre qu'il a écrite, il appelle les chrétiens à nous attacher aux réalités d'en haut et à non celles qui sont sur la terre. En Philippiens, une autre lettre, il dit « Ne pas penser aux réalités de ce monde, mais tourner les yeux vers le ciel, nous attendons Jésus-Christ. » Que voulons-nous mettre devant nos yeux cette année? De quoi voulons-nous nourrir notre cœur? Est-ce que la manière de nourrir notre cœur correspond à la direction où nous voulons aller? Est-ce qu'on vit comme si notre vie se résumait à cette vie sous le soleil? Est-ce qu'on est conscient des réalités divines? Chaque jour, prêchons-nous l'évangile à nous-mêmes. Je crois que c'est aussi Lloyd Jones qui disait on passe trop de temps à s'écouter, on devrait plus se parler. Prêchons-nous l'évangile. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libres. Nous ne sommes plus morts, nous sommes vivants en Christ. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes enfants de Dieu. Que ces réalités glorieuses habitent nos cœurs, que ce soit ces réalités glorieuses qui conduisent notre vie. Paul continue, verset 8. Paul continue, dit « Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Il dit « Mais vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre. » Certains ont la chair. Quand il parle de nature propre, il parle de cette nature qui est teintée de péché. Vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On pourrait traduire, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre. Paul nous dit, si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous appartenons à Christ. Nous sommes animés par son Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son Esprit nous donne la vie. Il habite en nous et nous pouvons plaire à Dieu. Quelle réalité glorieuse! Nous étions condamnés. Mais Paul nous dit, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que c'est l'Esprit qui vous anime, nous pouvons plaire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu prend plaisir en nous. Dieu prend plaisir dans ce que nous faisons. Dieu prend plaisir dans nos œuvres, même si elles sont marquées par nos faiblesses et notre imperfection. Pourquoi? Parce que si nous nous sommes acceptés en Jésus-Christ, au regard de Dieu, nos œuvres sont acceptées aussi en Jésus-Christ. Et Dieu peut prendre plaisir en nous. Le problème, c'est qu'on confond souvent la sainteté avec la perfection. Et Dieu n'attend pas que nos œuvres soient parfaites pour les considérer comme bonnes. Il est possible de plaire à Dieu dans sa grâce. Dès qu'on lui fait confiance, dès qu'on lui obéit, on lui plaît. Pourquoi ? Parce que son Esprit habite en nous. Parce que nous sommes unis à son Fils. Dans une autre lettre aux Thessaloniciens, Paul exhorte les lecteurs et dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et il ajoute « Et c'est ce que vous faites. » De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Comment on progresse encore dans le fait de plaire à Dieu? Il continue. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. 2020, résolument saint. Nous plaisons à Dieu. Ce que nous faisons peut plaire à Dieu parce que nous le faisons par son Esprit, uni à Jésus-Christ. Quand notre vie reflète notre appartenance à Dieu, nous pouvons lui plaire. non seulement Dieu ne nous condamne plus, mais Dieu prend plaisir en nous. Verset 14, Paul nous dit, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu ? En fait, être conduit par l'Esprit, ça ne veut pas dire que l'Esprit nous sert de GPS et qu'il va nous guider dans chaque décision de notre vie. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Être conduit par l'Esprit, c'est qu'il nous aide à faire mourir notre péché. En fait, c'est ce qu'il dit au verset 13. Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous y vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit, c'est faire mourir le péché en nous. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai cité Colossiens, il disait « Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre ». Il continue donc, il dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre ». Et il cite une liste de péchés, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Dans Galates, il fait le même lien. Il dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, c'est ceux qui crucifient leur nature propre, ceux qui font mourir le péché en eux. Se laisser conduire par l'Esprit, c'est faire mourir notre péché. Les anciens parlaient de mortifier le péché. Mortifier le péché, ça veut juste dire faire mourir le péché. C'est le titre d'un livre, un théologien puritain qui s'appelle John Owen, La mortification du péché. Et Owen, dans ce livre, il dit « Il faut que vous soyez continuellement occupés à tuer le péché, sinon c'est lui qui vous tuera. » Et si vous lisez le livre, pendant 13 chapitres, Owen, il expose les raisons de la mortification, les moyens de la mortification, les buts de la mortification, les symptômes, la nature du péché, la dynamique de la tentation. Il parle du péché en long, en large, en travers, en profondeur. Et après 130 pages, il commence le chapitre 14 avec ces quelques lignes. Écoutez, ce qui a été dit jusqu'ici était une étape préliminaire. 13 chapitres. Une préparation à la mortification et non la mise en œuvre elle-même de la mortification. Le but de ces chapitres précédents était de préparer le cœur. Pour ce qui est de la pratique elle-même de la mortification, nous ne donnerons que deux recommandations. Première recommandation, pour mettre à mort votre péché, mettez votre foi en Christ. Deuxième recommandation, soyez conscient du rôle que joue le Saint-Esprit dans votre mortification et des effets qui lui sont propres. En un mot, l'ensemble de cette œuvre à laquelle nous sommes appelés, est entièrement accompli en nous par l'Esprit de Dieu. Il passe 13 chapitres en disant, voilà comment marche le péché, voilà ce que vous voulez faire, attention à la tentation, elle fait ça, elle prend ce chemin, attention, veillez sur ça, tuez le péché, tuez le péché, tuez le péché, mettez des barrières, soyez sans relâche, lâchez rien, traquez-le, faites des efforts, et à la fin il dit, mais tout ça en fait c'est l'œuvre de l'Esprit. Il dit « Aucun effort humain ne peut faire mourir le péché. Aucun effort humain ne peut faire mourir le péché. Seule une énergie toute puissante peut accomplir ce travail, la puissance du Saint-Esprit. » Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire mourir le péché en nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il habite en nous. Pour tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous, et c'est lui qui travaille, et c'est lui qui fait mourir le péché en nous. Nous pouvons mettre à mort le péché. Pas parce que nous sommes devenus meilleurs. Pas parce que nous avons une puissance qui fait partie de notre nature, mais parce que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Et c'est elle qui nous fait marcher dans la sainteté. Nous pouvons mettre à mort le péché. Nous pouvons plaire à Dieu. Troisième clé, versets 14 à 17, nous sommes enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si la condamnation n'existe plus, si nous pouvons plaire à Dieu, c'est parce que nous sommes devenus ses enfants. On l'appelle Seigneur parce qu'il est notre roi, mais on l'appelle Père, Abba Père, parce que nous sommes devenus ses enfants. Et cette adoption nous libère de la crainte, nous dit Paul. Nous n'avons plus à craindre celui qui nous a choisis par amour. Un de mes plus grands chocs quand j'étais adolescent, c'était que j'avais tanné un gars pour essayer son scooter, tout neuf. Un booster spirit, les vrais savent. Un booster spirit, c'est un scooter qui était à la mode à l'époque. Et je l'avais mais vraiment tanné, jusqu'à ce qu'il lâche. Il était un peu hésitant, il était neuf. Et puis, comme dit mon père, prêter, c'est risquer de perdre. Et il ne connaissait pas cette parole de mon père, qui s'avérait être une prophétie. Je suis allé faire un tour, pas loin, mais il faisait nuit. Il y avait du brouillard. Et je ne sais pas comment, alors que j'étais dans une ligne droite, j'ai fini dans le fossé. Le scout éclaté. Je ne sais même pas comment je suis rentré chez moi. Rien de bon. Et je craignais vraiment la réaction de ce gars qui m'avait prêté son scooter, le pauvre. Mais je craignais encore plus la réaction de mon père. Et je me rappelle, il y avait mes grands-parents qui étaient là. Et c'était dans le salon, moi j'étais sorti, c'était le week-end. Et puis je dis, papa, il faut que je te parle. Et puis on monte. Et puis j'étais pas bien, j'étais en larmes. Je dis, voilà, un gars, il m'a prêté son scooter, je l'ai éclaté, il est mort le truc. Et il m'a dit, et toi, est-ce que t'as quelque chose? J'ai dit non. Il m'a dit, alors ça va? L'esclave peut craindre son maître, mais le fils ne craint pas son père. L'adoption nous libère également de la performance. On court tous après l'approbation. On court tous après la validation d'autrui. Et en fait, au fond, beaucoup de nos actes sont motivés par le fait d'être approuvés par les autres ou être validés. Et c'est ce qui explique en grande partie le grand succès des réseaux sociaux. C'est même quelque chose qu'un psychologue a appelé la boucle de rétroaction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je te like, tu me likes. C'est-à-dire que inconsciemment, quand on aime le contenu des autres, on s'attend à ce que les autres aiment notre contenu. Mon fils a besoin d'être approuvé. On se sent bien quand on nous valide. On se sent bien quand on nous approuve. On se sent bien quand on porte un regard favorable sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Et on se sent mal quand on manque l'approbation que l'on recherche. Et notamment dans les réseaux sociaux, tout est conçu pour nous faire participer le plus. Pourquoi ? Parce qu'on court après cette approbation, cette validation sociale. Mais ce n'est pas notre mérite qui fonde notre relation avec Dieu. C'est son amour envers nous, manifesté en Jésus-Christ. Paul nous dit, Dieu a envoyé son Fils pour que nous devenions ses fils. Il a donné son Fils pour que nous devenions ses enfants et on n'a rien à faire de plus pour lui plaire. Dieu nous regarde avec les yeux d'amour. Chargé du Père. plus rien à craindre. Il nous aime parce que nous sommes devenus ses enfants. Et même, nous sommes devenus ses enfants parce qu'il nous a aimés le premier. Ce qui fonde notre relation avec Dieu, c'est son amour. Ce n'est pas notre mérite. Et par notre adoption, finit Paul, nous sommes aussi héritiers. Et cet héritage, c'est quoi? C'est la gloire que nous partagerons avec Christ. Et en fait, le chapitre 8, c'est le dernier chapitre de toute une section qui commence au chapitre 5. Et il dit que nous glorifions de nos épreuves. Pourquoi? Parce qu'on a l'assurance de participer à la gloire à venir. Comment on peut avoir cette assurance de participer à la gloire à venir? Parce que nous sommes enfants. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et ce à quoi Christ a droit, nous y avons droit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais il nous faut passer par la souffrance avant d'arriver à la gloire. C'est le dernier verset. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Pour arriver à la destination gloire, il faut passer par le chemin souffrance. Et comment on peut garder notre espérance sur ce chemin de la souffrance? Comment même on peut donner les raisons de notre espérance à ceux qui nous le demandent, comme dit Pierre? Comment on peut donner ces raisons de l'espérance si on vit dans la souffrance? Ça, c'est ce qu'on verra dans 2 semaines ensemble. Notre mot d'ordre pour 2020, c'est résolument saint. Au début, on se demandait, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas illusoire? En fait, ça dépend pourquoi et comment. Si c'est comme toutes les résolutions où l'on compte sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sur notre volonté, alors c'est voué à l'échec. Mais si on avance avec la certitude et l'assurance que l'Esprit de Dieu habite tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ, alors nous pouvons être saints, alors nous pouvons plaire à Dieu. Alors nous pouvons marcher dans ses voies. Et c'est vrai qu'on vit une tension. La tension dont je parlais au début, elle n'a pas disparu. C'est une vraie tension. Mais on peut la vivre. On peut continuer à lutter contre notre péché parce que nous avons été libérés de la condamnation. Conduits par l'Esprit, marchons notre nouvelle vie. J'aimerais prier à partir de Colossiens 1, 9 à 14, je prie pour nous tous. Prions. Père Céleste, nous te demandons de nous remplir de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, pour que nous marchions d'une manière qui est digne de toi, que nous puissions te plaire entièrement. Seigneur, fais-nous porter des fruits de toutes sortes d'œuvres bonnes. Fais-nous progresser dans la connaissance de toi. Fortifie-nous par ta puissance glorieuse, de sorte que nous soyons toujours persévérants et patients. Père Céleste, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, parce que tu nous as rendus capables de prendre part à notre héritage. C'est toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et par lui, tu nous as rachetés. Et tu nous as pardonnés de nos péchés. À toi soit la gloire et l'honneur. Amen.